Dans un premier temps, je vais ancrer mon intervention sur deux recherches, hein, entre autres, donc la recherche sur les lycéens travailleurs et dans un second temps, la recherche sur les enseignants reconvertis. Alors, les lycéens travailleurs, effectivement, si vous voulez, pour moi, les petits boulots, parce qu'en fait, j'appelle leur travail, ce qu'ils font, petits boulots, tout simplement. Les petits blocs en format typique d'activités d'adolescents et de jeunes adultes scolarisés. Voilà. Donc, quand je parle de petits boulots des lycéens, il s'agit effectivement de ces. Je considère que ce sont des. C'est une format typique d'activités d'adolescents et de jeunes adultes scolarisés. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement la quantité, est-ce qu'ils travaillent beaucoup ou peu. Bien évidemment, j'analyse aussi, je regarde aussi de ce côté-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est notamment l'expérience, en fait, donc des petits boulots. C'est-à-dire les lycéens qui expérimentent, qui ont eu l'occasion, expérimentent encore aussi les petits boulots. Alors, l'enquête porte sur les régions d'Aix-Marseille et de Lyon. Je suis en train de continuer l'enquête sur Aix-Marseille. Pour le moment, j'ai traité environ 600 questionnaires et effectué donc sur les deux villes environ 42 entretiens. Donc le questionnement porte effectivement sur les effets sociaux liés à l'immixtion des petits boulots, donc des adolescents et des jeunes adultes scolarisés au sein de leurs univers scolaires et non scolaires. Quand j'ai analysé ces données, eh bien, si vous voulez, en fait, initialement, j'ai pas travaillé, j'ai pas affronté le genre, je n'ai pas abordé de façon frontale la question du genre dans mon travail sur les petits boulots. Mais c'était justement à partir de quelques constats que j'ai glissé vers la problématique du genre. Quelques constats, effectivement, globalement, même motivation, il y a cette quête d'autonomie, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. En revanche, les pratiques de petits boulots, on constate quand même des différences dans les pratiques. Si vous voulez, chez les filles, par exemple, bon, il y a des tendances connues, hein, garde d'enfants, service, j'ai dit connu, mais pas normal ou logique, etc., bien évidemment. Donc, garde d'enfants. Services, restauration, aide à domicile, etc. Chez les garçons, plutôt le marché, le commerce, la manutention. Mais il y a quand même une certaine convergence, notamment quand on observe ce qu'ils font pendant les vacances. C'est le secteur de l'animation et je dirais le secteur social également. C'est-à-dire que pendant les vacances, filles et garçons, on ne voit pas vraiment la différence d'intensité ou de fréquence, etc., pendant les vacances. Alors, il y a eu, si vous voulez, il y a effectivement très peu de garçons, par exemple, qui vont du babysitting. Alors, le constat est très peu surprenant, hein, on peut le dire comme ça, je pense. Et d'ailleurs, ce constat ne suscite guère de surprise. Hein. Il y a peu de garçons qui font du babysitting. Mais, comme on le sait quand même, la raison doit aussi se méfier de l'évidence. La raison doit aussi se méfier de l'évidence et que ce constat qui semble évident, à mon sens, est quand même révélateur d'une situation relativement figée. Par exemple, quand on regarde les filières de formation dans les lycées professionnels, bon, ici, dans les spécialités de la production, il y a beaucoup plus de garçons que dans les spécialités de service et vice-versa. Dans les spécialités de service, donc, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Ce ne sont pas des constats originaux, hein, parce qu'en fait, finalement, c'est une donnée, ce sont des tendances qu'on observe depuis plusieurs dizaines d'années. Mais quand même, quand on regarde d'un peu plus près, on voit des différences à l'intérieur des spécialités de la production. Bon, ici, je donne quelques exemples. Par exemple, à l'intérieur même des spécialités de la production, donc censées accueillir beaucoup plus de garçons que de filles, on peut faire ce genre de distinction. Dans la production végétale, il y a beaucoup plus de filles que dans les filières de production animale. En électricité, en électronique, très peu de filles dans l'habillement, 92,2% de filles. Donc là, on retrouve les tendances connues. Quand on regarde un peu Ces tendances-là, on a l'impression, on peut avoir l'impression qu'il serait plus facile pour un garçon d'intégrer une filière de service, même là où les filles sont très majoritaires, qu'une fine filière de production où les garçons sont très majoritaires. Alors quand je dis facile, effectivement, bon, un petit point très rapide sur l'utilisation de ces adjectifs faciles, parce qu'en fait, facile, ici, ne signifie pas qui n'offre pas d'obstacles ou qui demande peu d'efforts. Facile, ici, est utilisé pour désigner plutôt une condition d'accueil. Une condition d'accueil plus ou moins favorable, mais qui ne contraint pas trop celle ou celui qui est accueilli à une forte autocensure liée à cette condition, ou qui ne pousse pas forcément celle ou celui qui est accueilli au renoncement, au découragement, etc. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que l'utilisation de l'adjectif facile au sens courant. Mais facile aussi est en lien avec le poids des représentations, donc, hein, au sens représentation collective et sociale. Alors, en lien avec le poids des représentations de l'écart à la norme, mais aussi en lien avec la sanction que risque celui ou celui qui commet cet écart dans une sphère sociale donnée. Voilà. Donc, quand je parle de facilité, c'est un peu autour de ces ancrages-là. Donc, ici, justement, je pense à un travail de Clotilde Lemarchand, ou plutôt de ses travaux, donc datant de 2007 et 2017, un ouvrage qui a paru en 2017, quand elle parle des publics minoritaires dans les filières techniques. Elle montre bien que les filles numériquement minoritaires sont confrontées quotidiennement à des difficultés qu'elles considèrent, donc, que Clotilde Lemarchand considère, d'ordre psychologique, tu n'as pas ta place ici, ou d'ordre sexuel, les obscénités dites ou écrites, hein, sur les affaires personnelles, par exemple, des filles, et parfois même physiques. Et là, elle cite justement une élève en BEP carrosserie, donc il y a très peu de filles en BEP carrosserie, prénommée Zoé. Zoé dit donc, à un moment donné, je me suis pris des coups. Il s'attaque toujours aux filles, donc avec les chaussures de sécurité, il donne des coups de pied plus facilement. Et ça fait plus mal aussi. Alors, c'est vrai qu'il était assez difficile, il est assez difficile de faire un parallèle, enfin de façon rigoureuse, entre la répartition des filles et des garçons dans les spécialités, par exemple des lycées, et leur répartition sur différents petits boulots pratiqués. Parce qu'on pourrait croiser éventuellement les deux, mais en fait, ce croisement ne serait pas opérationnel, si vous voulez. Tout simplement parce que le champ des possibles est quand même assez limité en matière de petits boulots. Les petits boulots se concentrent sur quelques emplois, quelques métiers très précis. Et donc l'adéquation formation-emploi ne se réalise pas. Quand on regarde justement ces élèves qui exercent des petits boulots, et quand on observe notamment les modes et modalités d'entrée dans les petits boulots, on constate parfois une sorte de discrimination positive, j'ai mis entre guillemets, qui fait donc embaucher les filles pour les qualités dites féminines, patience, ténacité, méticulosité, douceur, etc. La fille ou la femme serait donc un être fragile, et dès lors, certains postes ne lui sont pas proposés, parce qu'elles sont considérées comme fragiles et délicats. Même si techniquement, donc, comme on le sait quand même, la technologie actuelle permet quand même à des personnes, même physiquement moins résistantes, d'effectuer quand même des tâches auparavant qui demandaient une force physique importante. D'ailleurs, moi je dirais qu'il n'est pas certain, et il n'est pas évident que les jeunes femmes, voire les moins jeunes femmes, soient évidemment, donc de façon évidente, peu résistantes, ou ne disposent pas de force physique nécessaire pour effectuer la quasi-totalité des métiers existants actuellement. Alors ici, il y a une sorte de rationalisation de choix, à la fois de la part des employeurs, des personnes qui proposent des emplois, mais aussi de la part des personnes, donc ici en l'occurrence les élèves, qui se proposent qui, qui souhaite se vendre, si vous voulez, en fait, pour tel ou tel emploi. Et souvent même, les élèves, donc, s'adaptent, si vous voulez, pour mieux se vendre, hein, à ces qualités érigées comme positives. Et parfois, ils ou elles finissent aussi par croire qu'ils ont ces qualités-là, à tort ou à raison, bien évidemment. D'ailleurs, quand on regarde les annonces passées par les élèves, eh bien, les filles, par exemple, comme j'ai pris l'exemple du babysitting, on voit, bon, voilà, j'ai noté ici, jeune fille patiente, douce et patiente, aimant les enfants, cherche, etc. Mais même s'il est vrai qu'il y a très peu de garçons qui prêtent le babysitting, moi, je n'ai jamais vu une annonce disant « garçon doux et patient, aimant les enfants, cherche à garder des enfants, etc. » Voilà. En revanche, les... il en existe, je crois, mais ils ne mettent pas en avant ses qualités, dans les annonces en tout cas. Alors, en revanche, la patience et l'expérience sont mises en avant chez les garçons. Voilà, ils évoquent passion et surtout l'expérience des enfants. Alors, je peux également citer un exemple, un peu rapidement, d'une lycéenne de terminale, donc. Je surveille un peu Ariane. Voilà, bon, ça va, d'accord, très bien, merci. D'une lycéenne de terminale âgée de 19 ans au moment de l'enquête, qui entraîne une équipe de football, catégorie 10-11 ans. Elle-même, elle était joueuse de foot plutôt. Mais depuis plusieurs années, donc, elle a entraîné, pourtant 3, 4, 5 ans, je crois, parce qu'elle a commencé assez jeune à entraîner, je crois, à l'âge de 15 ans. Mais quand elle a évoqué son souhait d'entraîner la catégorie supérieure, donc hein, des 12-13 ans, on lui a dit que ce sera différent. Ce sont des ados, des pré-ados, qui sont plus difficiles à diriger. Et on a dissuadé donc cette lycéenne d'insister, si vous voulez. Alors, par rapport à ces constats observés dans les lycées professionnels, mais aussi dans les pratiques, la pratique des petits boulots, on est en face, à mon sens, de ce que Zerotti appelle des situations de double clôture. Voilà, donc la référence est ici affichée, hein. La double clôture, bon, je lis tout simplement la définition proposée par Zerotti, un effet de dispositif de catégorisation sociale interne et externe, quel que soit le rapport subjectif à ces dispositifs, ouvre la possibilité de rapporter tout événement discutable de la vie sociale et donc tout événement produit sous les modes du conflit ou de la contestation dans la vie scolaire à un traitement dévalorisant de l'altérité. Donc Zerotti, hein, dans son article « Les enfants d'immigrés à l'école » ou « La dynamique de l'altérité », donc, paru en 97. Alors, concernant donc le public ici que j'évoque, donc ces lycéens, lycéennes, travailleurs, il y a donc une double catégorisation, effectivement, hein, ici, catégorisation sociale des formations ou des emplois, et aussi catégorisation sociale des qualités. Il y a donc cette double catégorisation. Effectivement, les jeunes filles ou les jeunes femmes se construisent donc par un processus de double clôture. La première étant l'assignation de leur personne à des formations ou à des qualités. Donc ça, c'est la première clôture. La seconde clôture, c'est l'identification symbolique aux catégories auxquelles elles sont assignées. Donc quand on regarde bien, ces lycéens sont travailleurs, mais non seulement, on peut aller un peu plus loin, donc au niveau de l'emploi, des femmes, tout simplement, dans le monde professionnel, on peut aussi retrouver... Cette double clôture, donc, que je viens d'évoquer à l'instant. Et donc, on est en face d'un processus d'exclusion et d'auto-exclusion. Et comme l'assignation des qualités exclut l'individu des rôles et des places ne nécessitant pas ces qualités, ou demandant d'autres qualités, eh bien, on glisse facilement vers un processus discriminatoire, dont le poids... des logiques de genre frappent les individus. Et c'est plutôt cela que je souhaite aussi montrer, si vous voulez. C'est cette assignation, en fait, qui fait qu'il y a exclusion, auto-exclusion, et qui glisse effectivement vers un processus discriminatoire, en fait. Alors, je vais passer à l'autre population, à l'autre recherche, si vous voulez, toujours liée, bien évidemment, à notre thème d'aujourd'hui, donc les enseignants reconvertis. Alors, les enseignants reconvertis, ce sont des personnes qui ont déjà exercé un autre métier auparavant, de plusieurs années souvent à des postes à responsabilité, et qui changent, qui bifurquent vers le métier de professorat. Donc, la thématique abordée est ici la reconversion vers le professorat des écoles, et bien évidemment, qui vise à permettre de mieux comprendre donc ce qu'on appelle la crise de recrutement traversée par cette profession juridique, ce qu'on appelle, parce qu'en fait, l'utilisation de cette expression, ou du mot même crise, en fait, est souvent du fait d'observateurs sociaux, de journalistes, en fait. Et justement, dans le numéro apparaître, dans l'introduction de ce numéro, donc, qui va apparaître cette année, hein, je recherche formation, dans l'introduction, on discute un peu en fait, de l'utilisation de ce mot crise, notamment de l'expression crise de recrutement. Voilà, donc je ne vais pas développer ici, ce n'est pas tout à fait non plus l'objet de mon intervention que de discuter de cette expression non plus. Mais ce que je peux dire peut-être aussi, c'est que ces personnes reconversion, en fait, à un moment donné, se trouvaient à la marge dans leur ancienne profession. Ils se sont retrouvés à la marge dans la mesure où ils vivaient une situation d'inconfort, voire une situation de détresse, voire une situation d'affliction qui les mettait en situation donc de souffrance au travail. Alors, ce n'est pas forcément une grande souffrance, mais parfois ce sont des petites souffrances qui durent. Et à un moment donné, il y a des éléments déclencheurs qui font que, eh bien, on se convertit d'abord avant de se reconvertir. Parfois, on s'arrête à la conversion sans se reconvertir complètement. La conversion étant juste une étape, un état, si vous voulez, de réflexion, en fait, où on se pose des questions. Mais la reconversion, c'est la réalisation, justement, de cette réflexion, l'aboutissement de cette réflexion. Et justement, ici, à mon sens, on retrouve la dimension de superfluité donc proposée par Joël Zask, qui est professeur de philosophie ici à AMU. Hein, Joël Zask. Elle parle de superfluité comme élément se traduisant par une désocialisation et l'isolement de l'individu dans une organisation sociale où les relations humaines sont raréfiées et sous contrôle. Et c'est une situation, finalement, qu'on retrouve assez régulièrement dans des entreprises, peut-être même à l'université, on m'a chuchoté, etc., etc. Alors, il y a donc une question qui découle de ce constat. Comment se sont-elles, ces personnes, donc, trouvées à la marge? Comment se sont-elles trouvées dans cette situation d'inconfort devenue peu supportable ou insupportable, voire dans une situation d'affliction? À mon sens, répondre à cette question, justement, permet de répondre, ne serait-ce qu'en partie aussi, et en tout cas de regarder de près, ne serait-ce qu'en partie, ce processus discriminatoire que j'ai évoqué tout à l'heure, en fait. C'est que, peut-être que, par une mise en marche, eh bien, on se retrouve dans une situation de discrimination. Par une exclusion, se trouve dans une situation, en présence de situations de discrimination ou un processus discriminatoire. Effectivement, quand on parle d'inconfort ou de souffrance au travail, eh bien évidemment, souvent on pense au harcèlement au travail. Mais je pense que il y a aussi quand même ce qu'on appelle une discrimination, de la discrimination indirecte, donc. Tout à l'heure, si j'ai un peu le temps, je vais projeter juste un diapo avec Voilà, deux, trois mots sur la discrimination même, cette notion de façon un peu plus précise. Mais je vais avancer un tout petit peu et je vais présenter deux cas, justement. Deux cas, donc. Marianne, une ancienne analyste marketing, et Mathilda, une ancienne ingénieure. Dans le cas, donc, de Mathilda, eh bien, elle m'a dit pendant l'entretien, quand j'ai annoncé le troisième enfant, on m'a fait sentir que quand même, à l'entretien, j'avais dit que j'en aurais plus d'enfants, quoi. Et donc le manager donc, lui rappelle à Marianne que lors de son entretien, il y a 5 ans, eh bien, elle se serait engagée à ne plus faire d'enfants. Voilà, donc. Je mets au conditionnel, parce qu'en fait, c'est le manager donc, qui annonce. Parce que finalement, Marianne, dans l'entretien, m'a confirmé, m'a dit et m'a affirmé qu'elle n'a jamais, s'est jamais engagée à ne pas faire d'enfant. Voilà. Mathilda, ex-ingénieure. Là, donc, elle dit, c'est quelque chose à partir du moment où j'ai eu mes enfants. Il est encore question d'enfants. J'ai eu ce problème-là en filigrane. Les enfants sont arrivés quand j'étais chez Muapi. Et mon patron m'a demandé... En fait, là, c'est la troisième enfant. M'a demandé un 80% parce que je n'allais peut-être pas suffisamment disponible pour l'entreprise. Mais en fait, l'entretien montre bien que, finalement, ce supérieur hiérarchique a demandé unilatéralement et avec anticipation, en fait, hein, parce que Marianne n'a jamais demandé à se mettre à 80% et elle m'a dit qu'elle s'est organisée hein, pour pouvoir travailler à 100% comme avant, etc., etc., après son congé maternité. Donc là, il y a une décision unilatérale et aussi avec une anticipation donc, de diminuer son temps de travail. Donc il y a une sorte d'injonction, si vous voulez, sans concertation et sans le... la même prise d'initiative de la part de la personne concernée, non plus. Alors, ici, je pense que ces deux exemples montrent quand même que ce qui est perçu comme une épreuve difficile, liée au statut, par exemple, de femme hein, dans l'organisation, est objectivée finalement par des attitudes relevant d'un traitement différencié. Et justement, ici, donc, on peut parler comme cela, discrimination, pourquoi ? Parce qu'il y a... Hein, un traitement différencié fondé sur le sexe et lésant la personne. Et on peut remplacer, bien évidemment, le sexe par d'autres variables, l'âge, la couleur de la peau, la taille, la santé, etc., etc. L'adresse d'habitation, etc., etc. Là, j'arrive vers la fin, mais justement, comme on a un peu de temps, à peu près... une dizaine de minutes, je vais présenter l'autre slide très rapidement où je résume un tout petit peu en fait, tout ce qui est autour de la discrimination un peu assez rapidement. Voilà. Si vous voulez, à mon sens, le stéréotype du genre n'est déjà, mais pas uniquement, hein, pas uniquement le stéréotype de genre, tous les stéréotypes, je dirais, le stéréotype du genre naît dans la société et véhiculé au sein de celle-ci. Mais la consolidation du stéréotype est partagée entre les deux sexes. C'est-à-dire que la consolidation, les stéréotypes homme-femme, fille ou garçon, eh bien, nous avons toutes et tous des stéréotypes et la société ne peut pas fonctionner sans stéréotypes et inversement. Dans une société, il y a toujours des stéréotypes également. Alors ici, je différencie très rapidement stéréotypes des préjugés, hein, parce que les stéréotypes, ce sont ces images, si vous voulez, les représentations ancrées hein, dans la société. Préjugés, bien évidemment, le jugement en avant, avant même d'eux, il y a donc des jugements. Donc il y a le jugement qui fait, entre autres, la différence entre le stéréotype et les préjugés. Et souvent, dans les préjugés, il y a quand même l'aspect négatif. Bien évidemment, il y a ce qu'on appelle les préjugés positifs, mais souvent les préjugés sont plutôt négatifs. Alors, mon propos donc s'attachait ici à montrer trois choses. Les stéréotypes sont source d'exclusion et d'auto-exclusion. Les normes de genre sont intériorisées à la fois par les hommes et les femmes. D'où la nécessité, à mon sens, effectivement, de travailler dans les deux sens, en fait. Parce que souvent, dans les études de genre, si vous voulez, on se focalise un peu, peut-être un peu trop souvent, ou plutôt pas suffisamment, sur les garçons. Oui, souvent. Donc, les travaux existants, si vous voulez, portent souvent sur les filles. Donc, le point d'entrée, fille-femme, etc. Après, on réfléchit. Mais à mon sens, que ça pourrait être intéressant aussi de mettre un peu l'accent sur aussi les garçons, parce qu'on sait que souvent, c'est en travaillant aussi sur les marges qu'on peut mieux comprendre les tendances un peu générales qu'on constate. Voilà, par exemple, les réussites atypiques d'élèves, hein, les 3% d'élèves dans telle grande école, en fait, issus de milieux populaires, ou les quelques filles à Polytechnique, et encore, ou à l'ENS, en mathématiques et en physique, parfois il n'y a pas de filles dans la promo, il y en a une, etc., etc. En travaillant, je pense, sur les marges, on peut aussi avancer sur la compréhension des tendances générales. Et enfin, donc, troisième chose, les institutions, écoles, entreprises, etc., etc., à mon sens, participent à l'élaboration de fonctionnements genrés qui peuvent aboutir à des normes et des pratiques discriminatoires. Donc, il est aussi, à mon sens, question d'institutions, pas uniquement d'interactions entre les individus, entre des groupes sociaux. Mais je pense qu'il est aussi important de regarder et aussi d'analyser, d'étudier un peu ce qui se passe dans les institutions de par leur fonctionnement et de par leur organisation également. Alors pour terminer, j'aimerais juste dire que la recherche sur les lycéens, c'est la recherche que je mène, je continue en fait, vise à terme à élargir et à approfondir les dimensions comparatives en me focalisant sur des pays, hein, minima 2 du pourtour de la Méditerranée. Alors, quelques bibliographies, hein, parce que j'ai cité quelques auteurs dans mon intervention. J'affiche ici les quelques auteurs, donc Clotilde Lemarchand, référence, Lancantin, Égalité, Diversité, Discrimination Multiple, Joël Zask, Participer, Essai sur les formes démocratiques de la participation, et Ziroti, Les enfants d'immigrés à l'école ou la dynamique de l'altérité, donc dans Mots et Migration, des actes de colloque de Grasse en novembre 80, qui s'est tenu à Grasse justement en 1996, donc, et publié dans Les cahiers de la Méditerranée. Alors, si j'ai encore un peu, peut-être un peu de temps, je vais présenter juste l'autre slide, mais il y a deux diapos. Hein. Ce n'est pas, c'est juste vraiment pour présenter rapidement. Alors F5, hop, voilà. Définition des petits boulots, parce que j'ai dit les petits boulots. Et donc, comment je définis un peu les petits boulots? Eh bien, tout simplement, en fait, ces boulots sont considérés comme petits, donc ces boulots exercés, c'est par les lycéens, de par leurs caractéristiques les plus courantes, petite responsabilité, petit salaire, petite durée, petite reconnaissance, petite visibilité, petite marge de manœuvre décisionnelle, notamment, même si l'ensemble, bien évidemment, de ces caractéristiques n'est pas systématiquement présent dans chaque petit boulot. Donc ça, c'est une petite définition de quand je parle de petit boulot, donc. Voilà. Alors, la discrimination, petit rappel, hein, sont des choses que nous connaissons. La discrimination est une inégalité de traitement, c'est une définition possible. Il y a plusieurs définitions de la discrimination. Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère de traitement illégal, car prohibé par la loi. Âge, sexe, couleur de la peau, etc. Ou dans un domaine visé par la loi, l'emploi, le logement, etc. Donc, pas forcément à partir d'un critère, mais aussi à partir d'un domaine. Et on peut bien évidemment croiser les deux. Un critère avec un domaine, ou des critères avec un domaine. Mais le droit fait habituellement la distinction entre la discrimination directe et la discrimination indirecte. Et ici, bon, la discrimination directe est tout simplement donc un traitement inégalitaire fondé directement et ouvertement sur un critère mentionné par la loi. Je vais afficher juste les 20 critères et j'en terminerai là. La discrimination indirecte est l'effet sur une personne ou sur un groupe d'une mesure, d'une politique apparemment neutre, mais qui fait là, de fait, là où les défavorise, en fait. Voilà. Donc une mesure, une politique qui défavorise de par son effet ou ses effets. Voilà. Et enfin, la loi, donc la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 propose ces 20 critères donc, de discrimination prohibés par la loi. Hein. L'âge, le sexe, l'apparence physique, l'appartenance ou non à une ethnie, ou supposée comme telle, à une nation, à une race, c'est dans le texte, à une religion déterminée, l'origine, l'état de santé, l'identité sexuelle, bien évidemment supposée ou réelle, l'orientation sexuelle supposée ou réelle, la grossesse aussi, hein, nous avons eu deux cas tout à l'heure que j'ai présentés, la situation familiale, le handicap, le patronyme, oui, le nom, le fameux nom, les activités syndicales, les caractéristiques génétiques, les mœurs, oui, les opinions politiques et aussi le lieu de résidence. Voilà, donc bien évidemment, on peut réfléchir à partir de ces critères et aussi les domaines, l'emploi, la santé, le logement, etc., etc. Bon, je m'arrête là pour donner un peu de temps aussi à la discussion et aux échanges. Merci.
Merci Eric, on va enchaîner tout de suite